Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International sur RFI, bien entendu comme chaque jour, et avec dans l'actualité footballistique, cette question « qui en veut ?» au Borussia. La question est donc posée en Allemagne, mais le pays accueillera ce soir deux matchs de Ligue des Champions, des affiches prometteuses à ce stade de la compétition, où nous espérons que tout se passera sans problème. Cédric De Oliveira nous donnera le ton de l'ambiance à Dortmund. Mais les jaunes et noirs auront-ils la tête à leur rencontre contre les monégasques? Tout sourire, Marc Bartra, le joueur blessé dans le bus, a souhaité bonne chance à ses camarades. À Munich, le Bayern recevra le Real, un face-à-face intéressant entre les entraîneurs Ancelotti et Zidane, entre deux super entraîneurs qui volent un peu la vedette à leur star. En parlant de star d'ailleurs, Robert Lewandowski, le grand buteur du Bayern, est forfait pour ce match. Les Colchoneros contre les Foxes, une rencontre inédite entre un club de l'Atlético Madrid, deux fois finaliste de la compétition, et une équipe de Leicester anglaise, championne l'an passé mais néophyte sur la scène européenne des champions. Un seul match hier soir, mais quel match, quelle victoire de la Juventus de Turin, quel but de sa vedette argentine Paulo Dybala et quelle déroute, quelle nouvelle déroute du Barça. Luis Enrique a eu l'impression de vivre une troisième mi-temps du match PSG-Barcelone et vous l'entendrez. Vous entendrez aussi Habib Bey qui est là, bonjour Habib.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Bienvenue dans Radio Foot et bienvenue à Naomi Bey.
Bienvenue à Naomi Bey.
Future auditrice, j'espère.
Félicitations à Eva aussi,
de Radio Foot.
Fantastique.
Oui, la maman, bien sûr. David Lortolari, notre ami spécialiste de l'Allemagne, il s'en passe des choses dans le pays que vous aimez tant.
Oui. Bonjour Annie, bonjour à tous.
Bonjour David. Et puis Carlos Pissarro, notre camarade de l'étage en dessous.
Je te réponds en catalan ou en espagnol?
Como quieres?
Buenas tardes.
Buenas tardes Carlos, buenas tardes Alejandro.
Buenas tardes.
Ça se dit aussi comme ça du côté de l'Argentine.
Oui.
Et puis il y a aussi Emeric Kouassi avec nous. Bonjour Emeric.
Bonjour Annie,
notre
bonjour à tous.
Notre stagiaire de la semaine. Radio Foot, c'est parti. La fête de la Ligue des Champions est un peu gâchée. Les deux quarts de finale qui se dérouleront ce soir à Dortmund dans moins de 2 heures maintenant et à Munich dans moins de 4 heures se disputeront dans un cadre sécuritaire renforcé. On est un peu loin du ballon rond et des plaisirs, des joies qu'il procure à cause d'un acte de violence qui a hier soir visé et touché le bus des joueurs du Borussia, des explosifs qui ont blessé un joueur, le défenseur espagnol international Marc Bartra, sans gravité, mais qui a pu et dû être opéré au poignet. Une lettre de revendication avait été trouvée au nom d'Allah. Elle avait orienté l'enquête vers une mouvance islamiste. Un suspect a même été arrêté, mais une deuxième revendication sur Internet, signée d'un groupe antifasciste, fait que actuellement les enquêteurs ne savent pas trop à qui attribuer cet acte. En tout cas, les matchs auront lieu. En tout cas, c'est ce qui est prévu, dans une ambiance donc très sécuritaire. Cédric De Oliveira, vous êtes à Dortmund depuis hier, puisque vous étiez parti pour le match. Bonjour Cédric.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Ça va, vous avez réussi à vous remettre des émotions du stade?
Oh, écoutez, on se remet effectivement dans cette ambiance, on va dire, malgré ce côté sécuritaire, effectivement, plutôt chaleureuse, ce qui est assez paradoxal, mais vous l'avez dit, dispositif de sécurité renforcé, il y a beaucoup de policiers autour du stade, plusieurs centaines, on cherche évidemment à sécuriser au maximum les alentours du stade, mis à part ça, il y a beaucoup de chaleur, beaucoup, c'est plutôt bon enfant, notamment entre les supporters de Monaco et les supporters de Dortmund. On sait qu'hier, il y a un élan de solidarité qui s'est propagé sur les réseaux sociaux, notamment pour aider les supporters de Monaco à être hébergés parce qu'ils n'avaient pas de solution d'hébergement. Les supporters allemands leur proposaient d'habiter chez eux. Les supporters de Monaco, eux, essayent de le rendre à leur manière. Alors, il y a beaucoup de chants, des Borussia. Il y a aussi quelques initiatives personnelles. On a croisé des supporters de Monaco avec des maillots floqués Bartra. Alors je peux vous dire qu'ils ont fait assez vite parce que c'était hier, et qu'aujourd'hui, ils se sont occupés de ça. Il y a des maillots de Monaco avec marqué Bartra. Il y a beaucoup de chaleur en tout cas entre les deux camps.
Alors il y a quand même beaucoup de forces de sécurité autour de ce stade.
Oui, je vous l'ai dit, oui, il y a beaucoup de forces de sécurité, effectivement, plusieurs centaines de policiers. Voilà, on cherche, je vous le dis, à sécuriser au maximum l'enceinte.
Donner une sérénité aux gens qui seront dans le stade.
Voilà, effectivement, mais je vous le dis, il n'y a pas vraiment ce ressenti, ou en tout cas, dans le stade, tout est calme. Et voilà, c'est plutôt bon enfant.
Oui, et évidemment, hier, on a beaucoup parlé de ce mur jaune. On imagine qu'aujourd'hui, et on espère qu'il pourra donner de la voix. David Lortolari, cette sécurité renforcée, elle ne l'est pas qu'à Dortmund, parce qu'il y a un match du côté de Munich.
Oui.
Cédric me disait tout à l'heure que des confrères lui parlaient aussi de Munich, évidemment. Et l'UEFA a un peu donné ce mot d'ordre. On fait attention, plus attention aux enceintes et aussi aux joueurs.
Force de police aussi renforcée en nombre, ce qui est un peu désagréable pour nous et pour les spectateurs et pour les citoyens en général, c'est que ça nous rappelle aussi des événements passés. Il y avait eu l'équipe nationale avec le Stade de France, il y a eu des choses qui concernent certains joueurs qui ont été concernés par différents événements. Et puis en Allemagne, j'ai du mal à dire cela, mais on a presque maintenant l'habitude. On a presque maintenant l'habitude de cela. Il y avait eu aussi, je sais plus si c'était pas à Francfort il y a quelques temps aussi un même processus de protection renforcée aussi autour d'un match avec les forces de police fédérales qui avaient été précisément renforcées en nombre.
Mm-hmm.
C'est difficile de prononcer des phrases comme ça. Je suis gêné moi-même de le dire, mais les forces gouvernementales fédérales sont presque habituées au processus.
Oui, elles ont déjà été mobilisées dans ce genre de cas. Alors allons vers le sujet sportif avec vous. D'abord, Cédric De Oliveira, on se demande un peu à quel match s'attendre, étant donné que les joueurs auront peut-être un petit peu la tête à autre chose. Alors, vous avez vu hier soir les Monégasques fouler la pelouse, hier soir, sans doute pour se défouler et sortir un peu de ce vestiaire. Ce matin, les Jaunes et Noirs se sont aussi rapidement entraînés parce que, évidemment, l'enjeu est très important. Et du côté de Dortmund, il va falloir remplacer Marc Bartra.
Oui, il va falloir remplacer le défenseur espagnol de 26 ans qui est titulaire. Ce sera visiblement Matthias Ginter, le jeune défenseur allemand qui est champion du monde et qui lui pour le coup a vécu deux soirées compliquées, puisqu'on le rappelle, il était là le 13 novembre 2015 avec la sélection allemande à Paris lors des attentats du Bataclan et qui ont touché le Stade de France. Voilà, Matthias Ginter touché deux fois par des attaques, en tout cas indirectement ou directement. Il sera probablement titulaire aux côtés de Papastopoulos et ce sera Piszczek à droite et Schmelzer, Marcel, le capitaine, qui sera côté gauche. Le Borussia qui enregistre pour cette rencontre les retours de Julian Weigl au milieu de terrain et de Shinji Kagawa qui sera lui qui formera le milieu à 3 avec Rafael Guerrero, le portugais. En attaque, Christian Pulisic à gauche, Ousmane Dembélé côté droit et vraisemblablement, ou en tout cas plutôt très sûrement, Pierre-Emerick Aubameyang, le Gabonais, à la pointe de l'attaque.
Mmh. Et du côté de Monaco, vous avez déjà la composition aussi ?
Alors probablement, là encore, on n'a pas encore de certitude. La seule incertitude, elle concernait encore Benjamin Mendy, puisqu'hier, il était annoncé forfait. Hier, il s'est plutôt entraîné normalement avec ses coéquipiers, mais ça risque d'être encore un peu juste. Et ce sera probablement Andrea Raggi, l'Italien, qui le remplacera sur le côté gauche. Le défenseur italien de 32 ans.
Merci beaucoup Cédric De Oliveira. On vous laisse à votre travail et à suivre cette compétition,
merci,
ce quart de finale.
À
tout à l'heure, on vous retrouve évidemment dans la deuxième partie de Radio Foot après le match. La question qu'on peut se poser, nous ici, c'est est-ce que ces joueurs auront la tête à la compétition, à l'enjeu, Le président du Borussia a appelé les joueurs à ne pas céder au terrorisme, les siens, de son équipe, alors que Vadim Vassiliev, le vice-président du club de Monaco, a dit, lui, le football ne doit pas être pris en otage. Et écoutons un des fans, le fan numéro un, on va dire, de cet ASM, c'est le prince de Monaco.
D'abord, aux supporters de Monaco, je les remercie de leur fidélité et de vouloir rester. Je pense que pour nos hôtes allemands, c'est un bel hommage aussi, et puis que le football continue, que le sport ne doit pas être pris en otage comme ça, par des fous. Je ne sais pas quelle est la meilleure solution. Je pense que l'UEFA a des impératifs et logistiques et peut-être, bien sûr, de télévision aussi. Moi, je pense que c'est peut-être pas la meilleure solution que de jouer le lendemain d'un incident d'une telle ampleur.
Alors peut-être pas la meilleure solution, hein, se dit le prince de Monaco qui s'exprimait chez nos confrères d'RTL. Habib, comment aborder ce match pour un joueur professionnel ? Est-ce que finalement, au coup d'envoi, on oublie tout ?
Non, on n'oublie pas tout. Je pense que les joueurs de Dortmund sont forcément peut-être plus perturbés que les Monégasques, parce que ça touche déjà leur propre équipe. Ils ont déjà vécu des précédents comme ça dans leur pays. Et puis après, on va dire aussi que le football doit reprendre ses droits, comme la vie dans les événements qui étaient beaucoup plus graves avait repris son droit. Malheureusement, c'est un petit peu comme ça tout le temps. Après, je crois que ce qu'il faut essayer de mettre en première ligne, c'est-à-dire c'est la décision surtout des joueurs de Dortmund, de savoir dans quel état d'esprit eux sont. Après, on sait que l'UEFA aujourd'hui dans le calendrier... Non, je suis pas sûr qu'ils aient le choix, parce que quand on regarde Monaco, par exemple, s'ils vont au bout de toutes leurs compétitions, jusqu'au 2 mai, je crois, ils doivent jouer tous les 3 jours. Donc, où vous allez placer ce match-là, ça va être compliqué. Moi, je suis plus dans cet aspect-là, de me dire que j'ai vu les joueurs de Monaco s'entraîner après cet arrêt du match. Ils avaient l'air plus détendus,
oui,
forcément, puisqu'ils sont pas touchés par tout ça. Ce qui est exceptionnel, on va dire, ce qui heureusement qu'il n'y a pas eu de drame plus important que la blessure de Bartra, oui, qui a été, même s'il a été opéré, ça reste quelque chose
pas
de majeur.
Match non plus, hein.
Mais heureusement, mais c'est sûr que les joueurs de Dortmund vont être peut-être déstabilisés dans la préparation de ce match. Une fois que ça commence, j'ai envie de dire qu'on reprend un petit peu le cours de la vie, de votre sport, de ce qui fait l'ADN de notre sport, c'est-à-dire d'être compétitif. Et au bout d'un moment, le public, à mon avis, va être très très chaud. Et au bout de 2-3 minutes, Dortmund va te remettre dans le métier qu'est le football.
Oui, il faut peut-être compter sur l'ambiance très particulière de ce beau stade et de ce grand stade qu'est celui de Dortmund, David.
Bon, justement, on parle de mur jaune de façon peut-être un peu excessive en Ligue des Champions, le fameux mur jaune de Dortmund, les 25 000, la tribune de 25 000
personnes. Ils sont obligés d'être assis.
Exactement. On passe de 81 000 à 65 000 spectateurs en configuration Ligue des Champions et c'est plus exactement le même mur jaune. Mais ça, c'est une petite parenthèse. Je suis content qu'Habib, comme ancien joueur pro, nous explique comment on peut se sentir avec un match comme ça, parce que, à titre personnel, et je me permets de le dire là, à ce micro-là, moi, ça me paraît, 24 heures après les événements, ça me paraît dingue de jouer le match qui a été reporté hier soir. Ça me paraît incroyable. Ça me paraît très tôt, très précoce. Après, il y a toute une machinerie, bien entendu. Il y a les matchs qui obligent à ne pas avoir le choix, comme vous le disiez, Annie. Mais moi, je reste assez choqué par cela et ça me paraît très rapide. Pour ce qui est de Bartra, on n'a pas précisé peut-être, il a une fracture du radius, je crois. Donc pour lui, une fracture au bras, en tout cas. Donc pour lui, bien évidemment, le match était impensable ce soir et peut-être sa saison complète est même
déjà terminée. Oui. Alejandro, c'est évidemment les contraintes aussi, on le sait, le prince de Monaco fait allusion, mais on le sait tous, ce sont les droits de retransmission, ce sont aussi des calendriers très serrés, on est en fin de saison, qui malheureusement oblige aussi à faire jouer des joueurs qui ont peut-être pas le cœur à ça.
Oui, l'UEFA a pris une décision très rapide. Je pense que les autorités allemandes ont donné leur feu vert parce qu'elles auraient pu empêcher la tenue
entre-temps,
du match si elles estimaient
que la
situation ne le permettait pas. Après, il a raison, Habib, quand il dit que la vie finit toujours par reprendre ses droits. Mais il y a toujours aussi une période qu'on appelle le deuil quand il y a un décès, ou une période où, en tout cas, on essaye de remettre les choses en place et on peut... Je pense s'interroger sur le fait que Borussia aujourd'hui quand même aura du mal à donner sa pleine mesure. On l'espère tous, mais personnellement, j'ai du mal à y croire.
Pour la petite anecdote, j'avais vécu un événement avec Marseille qui n'était pas du tout de cette ampleur, mais on avait eu notre bus qui avait été caillassé lorsqu'on avait perdu 2-1 et que Paoletta avait marqué ce fameux lob. Vous savez, lorsqu'il avait dribblé Barthez, on avait pris une baramine en fait à peu près, on va dire, 30 cm du chauffeur qui avait été tétanisé. Il a fallu les pompiers pour lui enlever les poignées du volant et on avait demandé à ce match que ce match soit remis puisqu'on avait été quand même perturbé dans l'entame. Et c'est vrai que pour revenir à ce que disait David, on avait eu du mal à le préparer, à s'échauffer, à être dedans en fait dans cette rencontre parce qu'on avait vécu un tel événement en termes d'adrénaline et à la fin du match on n'avait pas trouvé comme excuse que ce match avait été perdu à cause de ça. Mais il est clair que j'ai vu certains joueurs qui avaient été perturbés peut-être plus que d'autres, ceux qui avaient été exposés par exemple à côté de la bite qui a été explosé, c'est plus compliqué. Donc peut-être que pour ces joueurs de Dortmund, ça peut être difficile aujourd'hui.
Oui. Une petite question pour Carlos. Lui, précisément, il n'y a pas une motivation extra aussi qui peut donner à des
autres joueurs aussi. Oui, aussi
parce
bien
que
sûr.
Ça peut donner tous les contraires.
C'est pour ça que je disais que le public aura peut-être un rôle important à jouer dans l'entame du match, de se dire si l'événement au bout de 2-3 minutes, ce public s'enflamme et que Dortmund est dans un bon moment, ça peut être justement l'inverse. Il peut y avoir cette forme de révolte voilà. Due à un événement qui les a touchés hier. Et faire que cette équipe se transcende, même si aujourd'hui elle n'a pas besoin de se transcender puisqu'elle est très efficace à domicile.
Et peut-être aussi hein, non seulement l'équipe, mais tout le monde, parce que finalement cette communion de supporters dont nous parlait tout à l'heure Cédric de Oliveira, on le voit à la une de l'équipe aujourd'hui, tous ensemble, c'est véritablement ça. Peut-être que cette union aussi, au moins sur le début du match, permettra de passer l'écueil et surtout le souvenir. Alors évidemment, on parlera de ce match tout à l'heure dans Radio Foot. On l'avait déjà beaucoup évoqué hier, et notamment le face-à-face entre Mbappé et Dembélé. Passons à l'Arena de Munich quand même, parce que c'est l'autre grand choc de la soirée. Et bien dans cette enceinte plutôt entre de l'ogre de Bavière, hein, le Bayern attend de pied ferme son adversaire du soir, donc le Real Madrid, un face-à-face attendu entre des joueurs, entre surtout les deux meilleurs clubs d'Europe qui se retrouvent évidemment régulièrement dans cette compétition. Et pour cause, Emery Kouassi, ce sont deux géants tant footballistiquement que financièrement.
Et oui, Bayern-Real, c'est 16 Ligues des Champions au total à ces deux clubs-là. 5 Ligues des Champions pour le Bayern, 11 pour le Real Madrid. À cela s'ajoutent 3 Coupes du Monde des clubs pour les Bavarois et 5 Coupes du Monde pour le Real Madrid. On peut parler aussi de la seule Coupe de l'UEFA du Bayern comparée aux deux Coupes de l'UEFA pour le Real Madrid. 26 championnats d'Allemagne contre 18 Coupes pour 18 Coupes d'Allemagne. 32 championnats d'Espagne, 19 coupes d'Espagne pour le Real Madrid. Et le seul trophée de différence revient au Bayern de Munich avec la Coupe des Coupes.
Alors ça, c'était sur le plan footballistique. Et évidemment, ce sont deux géants aussi, financièrement parlant.
Tout à fait. 1330,95 millions, c'est en euros la valeur estimée de leur effectif. 764,80 millions d'euros pour le Real Madrid et 566,15 millions d'euros pour le Bayern. Les chiffres d'affaires sont quasiment proches. 627 millions d'euros pour le Bayern de Munich, 620 millions d'euros pour la Casablanca, seulement 7 millions de différence. Niveau recrue, le Real Madrid a le portefeuille à la place du cœur et surclasse son adversaire allemand. Joueur acheté le plus cher, Gareth Bale, à 101 millions d'euros. Joueur le plus valorisé, Cristiano Ronaldo, à 100 millions d'euros. Joueur acheté du côté du Bayern, Xavi Martinez à 40 millions d'euros. Joueur le plus valorisé, Robert Lewandowski.
Et en plus acheté au Real, effectivement. Et Lewandowski qui ce soir ne jouera pas. Alors David, évidemment, il ne jouera pas dans ce match. Est-ce qu'il va beaucoup leur manquer ? C'est le buteur, c'est le meilleur buteur de la Bundesliga actuellement. On l'a vu à l'œuvre pendant le Klassiker, c'est ça ?
Oui, le Klassiker.
Au cours du week-end.
Mais d'ailleurs, il a été secoué par je sais plus un joueur de Dortmund et c'est dans un choc agressif qu'il a souffert de l'épaule et qu'il est contraint de renoncer ce soir. Oui et non, pour répondre à la question Annie. Non, ça ne va pas les déranger parce que Ancelotti saura y faire, parce qu'il a toutes les solutions pour pallier une absence, pour remplacer un joueur par un autre, éventuellement changer de tactique, ça il sait faire, donc ça ne les dérangera pas. Mais oui, ça les dérangera, parce que malgré tout, c'est le meilleur buteur du championnat, ou à peu près, avec Aubameyang en Allemagne.
Il l'a passé durant le week-end et au cours de ce fameux match contre Dortmund.
Une dimension physique et technique à la fois, parce que c'est un joueur qui n'est pas maladroit, c'est un joueur qui a des dimensions physiques évidentes et qu'on ne peut pas remplacer, que Thomas Müller devrait remplacer, mais c'est un ersatz, pour employer un mot allemand. C'est-à-dire que Müller va jouer forcément complètement différemment. Ça sera de l'évitement, alors que Lewandowski n'hésiterait pas, lui, à aller au contact avec les défenseurs du Real. Donc forcément, ce sera différent.
Ben, on va suivre ce match ce soir, mais en attendant de continuer à en parler, n'est-ce pas Carlos, parce que vous allez nous donner...
Pour le Real Madrid, c'est exactement pareil, ça change à la défense. Évidemment, le seul problème, c'est que Varane et Pepe, ils seront là, mais Nacho, il va occuper la place à la
défense. Oui, on en parle dans la deuxième partie de Radio Foot International, évidemment, et puis de ce face-à-face entre Ancelotti et Zidane, juste après les infos.
Radio Foot International, Annie Gasnier.
deuxième partie de Radio Foot International. Deuxième partie avec Habib Bey, Carlos Pissarro, David Lortolari et Alejandro Valente pour évoquer eh bien cette journée de Ligue des Champions qui, espérons-le, contrairement à ce qui s'est passé hier, eh bien aujourd'hui ne se déroulera que sur le plan sportif et qu'elle se déroulera bien. Cette affiche, Carlos Pissarro, on évoquait le Bayern Munich Real Madrid et David nous a déjà un peu dit que même si Robert Lewandowski n'est pas là, ça peut ne pas être trop grave pour les Allemands. C'est une des affiches que l'on retrouve le plus dans cette compétition.
C'est le plus répété, en tout cas dans l'histoire de la Ligue des Champions et la Coupe d'Europe. 22 fois, ils se sont opposés tous les deux équipes et les balances positives pour les Allemands. 11 victoires, 9 pour le Real Madrid, 2 matchs nuls. Mais pour Zinedine Zidane, c'est exactement pareil. La vie, c'est tranquille. Si on entendait hier la conférence de presse, on dirait que c'est une conférence de presse de la phase de poule. Vraiment, ça va pas en accord avec la grandiosité de ces matchs-là. Mais l'équipe, c'est exactement pareil. Il n'y a pas de mystère dans le Real Madrid. Uniquement, il a touché la défense, parce qu'il est forcé à toucher la défense. Comme je viens de dire avant, Sergio Ramos, il sera pas accompagné au bien de Pepe ou de Varane, c'est des collègues en défense centrale.
Donc, qui sont blessés.
Voilà, qui sont blessés. Donc, la place, ça sera pour Nacho, ça c'est sûr. Mm-hmm. Ils sont accompagnés dans les axes avec Carvajal et Marcelo, et devant la défense, Kroos, Modric, Casemiro, et devant la BBC.
Voilà. Et en plus, Sergio Ramos est sous le coup d'une suspension. C'est-à-dire s'il prend un carton jaune, il manque le match retour.
Je pense que ça sera les vrais problèmes pour le Real Madrid. Oui, tout à fait.
Mais les matchs sont toujours imprévisibles parce que hier Carlos Bianchi nous disait oh, mais le Real, on sait déjà comment le Barça, on sait déjà comment il joue contre la Juve. On a l'impression d'avoir déjà vu le match. Nous, on n'avait pas eu cette sensation. En tout cas, Alejandro Valente, on a aussi un face-à-face très intéressant entre deux grands personnages. Alors, on parle de confrontations répétées. Sur les matchs. Alors d'abord, quand même, la dernière fois que le Real est allé jouer au Bayern, on s'en souvient tous quand même, ils ont mis 4-0 à domicile à une équipe qui était entraînée par Pep Guardiola.
Tout à fait, tout à fait. Et il y avait un technicien aussi qui aujourd'hui, il est de l'autre côté.
Deux techniciens, oui, Ancelotti et Zidane.
Il y a beaucoup de similitudes. Mais pour moi, a priori, avec les trois équipes espagnoles qui disputent maintenant les quarts de finale, je pense qu'ils n'ont pas une forte chance de passer. Ils n'arrivent pas dans un très bon moment de forme. Je ne sais pas si c'est pour la Ligue, maintenant la situation telle comme il est, mais je ne les vois pas vraiment...
À cause du championnat, vous pensez?
Oui, à cause du championnat, à cause de la compétition, c'est très long, ils sont pas arrivés en forme, vraiment, ils sont pas arrivés en très bonne forme. On va dire que deux équipes, par exemple, l'Atlético de Madrid par rapport aux matchs qu'il y a face à Leicester, c'est les plus clairs à positif, mais les Séville, il était aussi favori face à Leicester. Mm-hmm. Donc voilà.
Ouais. Alejandro, en tout cas, ce face-à-face entre Ancelotti et Zidane. Alors, on s'est souvenu ce matin, en cherchant un petit peu, qu'en fait, non seulement l'un avait été l'élève de l'autre, mais aussi que le maître, c'est-à-dire Ancelotti, hein, il avait eh bien eu à un moment Zidane comme joueur, c'était à la Juventus, et on va l'entendre d'abord Carlo Ancelotti, parce que c'est le maître qui accueille son élève, ou l'élève, mais en tout cas un maître qui a appris de son élève.
Quand vous avez un adjoint comme Zidane, qui avait une personnalité fantastique en tant que joueur, son charisme et sa personnalité peuvent vous aider. Et c'est ce qu'il a fait quand j'étais au Real. Il était un très bon adjoint aussi parce qu'il avait une bonne relation avec les joueurs. Et c'est vrai que rencontrer Zidane, en tant que joueur, a un peu changé ma vision du football. Les joueurs sont plus importants que le système tactique.
Qui va se jouer de l'autre ce soir, Alejandro?
A priori, on peut penser que Zidane peut être un peu plus impressionné par rapport à tout ce qu'il a vécu un peu à l'ombre de Carlo Ancelotti. D'un autre côté, on sait que Zidane sait s'affranchir quand même très bien de ce genre de dépendance. Et c'est quelqu'un qui peut, à son tour, essayer d'en montrer à Ancelotti. D'ailleurs, rappelons que quand même le Real Madrid est le tenant du titre.
Oui, Habib, c'est quand même effectivement une rencontre intéressante au point de vue de ces deux personnages, et j'imagine que évidemment ça se reflétera sur les équipes.
Oui, à tous les plans. Quand Ancelotti dit que les joueurs sont plus importants qu'un système, heureusement qu'on entend ça aujourd'hui.
J'ai eu un message de Louis Van Gaal à l'instant qui n'est pas d'accord.
Oui, justement, heureusement que lui le dit, parce que c'est vrai que c'est primordial aujourd'hui en football pour les grandes performances. On l'a dit, c'est le maître avec l'élève. Ce qui est bien, c'est que Ancelotti, lorsqu'il était le maître, a laissé de la place à l'élève. Et ça, c'est vraiment la classe pour un entraîneur comme Ancelotti qui aurait pu demander à Zidane d'être un petit peu dans l'ombre. Rappelez-vous ce match où il est lui assis et Zidane est debout en train de donner ses consignes. C'est quand même Carlo Ancelotti. En termes d'ego, je suis pas sûr que tous les entraîneurs pourraient accepter ça. Donc ça prouve qu'Ancelotti est un immense entraîneur, que Zidane a été en apprentissage avec l'un des meilleurs, voire le meilleur au vu de son palmarès. Et ce match va nous offrir en termes de tactique, en termes d'intensité, ça va être exceptionnel. On parle de ce 4-0 du Real. Il faut pas oublier que le Bayern avait des absents de marque ce jour-là pour Guardiola et que ça reflétait peut-être pas aussi la qualité des deux équipes. Ce qui est intéressant, c'est de voir si le Real va faire le même type de match que face au Napoli, parce qu'il faut pas oublier que face au Napoli, à domicile, à l'extérieur, s'ils jouent comme ça en première mi-temps, comme ils l'ont fait face au Napoli, ils pourraient être en grande difficulté face au Bayern, qui est une grande équipe, qui pour moi en ce moment a montré aussi d'énormes qualités. Et ce sont deux équipes qui montent en puissance, je trouve, par rapport à la phase de poule. Ils ont fini deuxième du groupe, les deux. Et on voit que ce sont des équipes qui sont prêtes dans les grands rendez-vous. Les grands rendez-vous, c'est à partir des quarts de finale, quand vous avez cet aspect émotionnel qui rentre en ligne de compte, où il faut être très très bon, il ne faut pas laisser les détails de côté. Et c'est pour ça qu'ils sont aussi titrés le Real de Madrid et le Bayern de Munich.
Carlos, ils sont dans une grande forme, véritablement. On sait qu'il faut qu'ils aient être prêts au mois de mars, au mois d'avril. Et le Real...
Ouais, bon, le problème, c'est les rotations bien. De Real Madrid. Voilà. Et Zinedine Zidane, tactiquement, par rapport à Carlo Ancelotti, je pense qu'il y a une énorme différence. Mais Zinedine Zidane, il a la chance d'avoir dans les bancs aussi des joueurs déterminants comme Lucas Vázquez, en attaque aussi. On a bien vu qu'ils sont des joueurs vraiment qui sont au top. Même parfois bien meilleur que des joueurs qui sont dans les types.
Tout le monde dit qu'ils jouent mieux sans la BBC, par exemple. Le Real Madrid joue mieux au football sans la BBC.
Zidane est un peu prisonnier de sa BBC parce qu'il peut pas les sortir.
Donc voilà, il punit un petit peu les joueurs physiquement. Donc ils sont tous en rendez-vous. Il se complique pas beaucoup la vie, mais voilà, c'est de s'assurer un petit peu. Et en tout cas, je pense que cet éliminatoire par rapport aux différences par rapport à celui-là qu'on a vu hier, je crois qu'il va se jouer au Bernabeu.
Ouais, au match
retour. Je pense.
Le Bayern actuel, on sait que l'année dernière, donc, et pendant quelques années, il y a eu Pep Guardiola. Est-ce que ce Bayern ressemble à une équipe d'Ancelotti, David?
Ah oui, parce que moi, ce qui me frappe cette saison, c'est que tout semble évident et limpide. Ah ben, Robben est à droite, il met sa spéciale. Ben oui, c'est sa force. Ribéry est là, et ben, il retrouve sa jeunesse. Oui, ça paraît normal. L'alliance entre Arturo Vidal, le Chilien, et Xabi Alonso, l'Espagnol, fonctionne. Si c'est Thiago Alcantara aussi, ça semble fonctionner aussi. Ça veut dire que Ancelotti, simplement, il a son piano devant lui, puis il appuie sur la bonne touche au bon moment. C'est vraiment frappant, alors que Guardiola, lui, était plus dans le...
Lui, faire rentrer le joueur dans son système.
Oui, l'invention, une nouvelle chose, un nouveau système presque chaque semaine, c'est fabuleux aussi pour apprendre, peut-être pour les joueurs et aussi pour le public. Mais là, avec Ancelotti, les choses semblent... C'est comme un vieux meuble bien patiné, c'est beau, c'est évident, ça s'impose. C'est vraiment frappant. Moi, cette saison, je suis frappé.
Ça, c'est notre débat aussi, de savoir si c'est facile d'être entraîneur d'un grand club comme les Bayern ou le Real Madrid.
Est-ce que l'entraîneur sert à quelque chose?
C'est pour ça que Carlo Ancelotti dit que le plus important, ce sont les joueurs. Ouais. Parce que lorsque vous avez l'adhésion des joueurs, vous pouvez les mettre dans n'importe quel système, ils seront performants. C'est ce qui fait un petit peu le défaut de Pep Guardiola en ce moment en Angleterre, c'est qu'il a aussi été trop dans ce système, cette obsession du système, et on voit que Ancelotti, lui, l'a bien appréhendé parce qu'il a quand même repris une équipe qui avait été formatée par Guardiola, il faut pas l'oublier. Pour le sortir de ce formatage, c'est pas simple lorsque vous êtes dépendant Guardiola. Donc lui, il le fait très très bien. Après, moi, j'ai dit que ça va être une vraie bataille tactique, ça va être très intéressant.
Mais tout peut payer aussi pour ce système-là. Imaginez-vous les cas des Isco, maintenant, en Morata, qui sont en train de chercher des autres clubs. Voilà, c'est les risques que tu prends aussi. Si tu ne donnes pas des opportunités dans les grands moments aussi, voilà, les joueurs, ils partent.
Ouais. En tout cas, on parlait de joueurs, d'entraîneurs qui aiment mettre en valeur son effectif avant peut-être sa tactique. Eh bien, on va l'entendre, c'est aussi le cas de Diego Simeone. Parce que ce soir, eh bien, les Colchoneros sont eux aussi de la fête de la Ligue des Champions. Un peu loin des soucis de l'Allemagne, mais pas tant que ça, parce qu'on a aussi renforcé la sécurité autour de Vicente Calderón. Et il y a même des hooligans anglais qui ont été arrêtés hier soir, Plaza Mayor, à Madrid, parce qu'ils faisaient sûrement un peu trop de bruit ils étaient un peu trop menaçants. En tout cas, l'Atlético, qui a donc disputé deux finales malheureuses en 2016 et 2014, espère évidemment aller plus loin. C'est un choc inédit entre ces deux équipes et vous allez l'entendre, donc ça plaît bien à Diego Simeone.
C'est clair que le football est maravilloso, parce que nadie tiene la raison y...
Le football est une chose merveilleuse. Personne ne peut prédire comment le match va se dérouler. Il n'y a ni calcul, ni vérité générale pour ce match. Il y a différentes façons de l'aborder. Nous sommes humbles sur le terrain, nous travaillons dur, nous travaillons ensemble, nous jouons sur tous les tableaux, et cela nous a permis de trouver notre style ces derniers temps. Beaucoup d'équipes ont déjà vu comment nous jouions, car il y a différentes manières de jouer, et bien sûr, différentes façons de gagner. Nous avons toujours construit notre jeu autour des joueurs que nous possédons, et nous avons utilisé et cela comme base afin de grandir ensuite et se développer.
On voit effectivement que l'Atlético, les grands buteurs s'en vont et l'Atlético reste une équipe de top de la Liga.
Il ne va pas changer non plus l'équipe. Si tu veux, je te rappelle ce qui va passer aujourd'hui dans les Vicente Calderón. Et dans lequel il y aura plein 100% de supporters. Oblak dans la porte,
dans les buts.
Et après dans les buts, et après dans défense, Juanfran, Godín, Savic, Felipe Luis, ça ne change pas. Les milieux de terrain non plus, ça ne change pas. Saúl, Gavi, Coque, Carrasco. La seule différence, c'est que Griezmann, il sera accompagné de Torres, encore une fois, c'est la même équipe de la Ligue, les deux derniers matchs.
Gamero
est toujours, Gamero est toujours blessé. Mais principalement pour...
Il aime s'appuyer aussi sur le même 11, on le sait, il les épuise un peu, ces joueurs.
Il s'épuise pas aussi. Et il fait beaucoup plus de rotations, à mon avis, par rapport à Zidane et par rapport au Real Madrid, il fait des variants. Mais l'objectif numéro un pour l'Atlético de Madrid, c'est pas d'encaisser des buts.
Ah ben c'est un 0-0 assuré.
Mais vraiment assuré. Non, pas encaisser un seul but. Plus que la priorité de mettre en 2-0, en 3-0, c'est de pas encaisser un but à la maison. Une autre chose.
Et d'en marquer, évidemment.
De faire attention au corner et au ballon arrêté parce que Leicester, il est beaucoup plus fort dans le jeu aérien. Ça, c'est hyper important. C'est la clé de ces matchs-là. Et surtout que l'Atlético Madrid, il n'aime pas être les favoris. Jamais il n'aime pas avoir l'étiquette de favori. Dans ces cas, je pense que l'Atlético Madrid est un petit peu plus favori par rapport à la Leicester.
Bah oui, peut-être parce qu'ils ont déjà disputé deux finales il n'y a pas longtemps.
C'est la philosophie de l'Atlético de Madrid, c'est vraiment.
Et que cette équipe de Leicester, elle est complètement néophyte, Habib.
Ouais, moi je vais me mouiller. Pour moi, il n'y a pas de match. C'est-à-dire que Leicester est passé face à Séville parce que Séville s'est éliminé tout seul. Au match aller, Séville peut en mettre 4, 5, ils ne le font pas. Au match retour, ils ont l'opportunité de marquer ce penalty, ils le font pas. Et Séville n'était pas prêt à répondre au défi physique imposé par Leicester. Par contre, l'équipe de Simeone, elle est prête depuis des années à répondre à ce défi physique qu'on va imposer les Anglais. La qualité technique, elle existe juste sur Riyad Mahrez. Donc c'est pas difficile aujourd'hui à contrecarrer, c'est pas comme si vous en aviez plusieurs, c'est une équipe qui est hyper physique, c'est vrai que les coups de pied arrêtés sont une clé essentielle ce soir pour l'Atlético, mais je pense qu'il y aura pas match. Clairement, je trouve que l'Atlético est bien au-dessus en termes d'intensité lorsqu'ils sont dans leur grand match, eux, en Ligue des Champions ou que ça soit en Liga. Cette équipe, elle est identifiée Simeone. Elle sait très très bien répondre à ce type de défi que vont imposer Leicester. Après, je me mouille parce que je le fais très rarement, mais je crois que pour moi, la marche est beaucoup trop haute pour Leicester parce que ces compétitions-là, il le maîtrise vraiment. Et s'il a été deux fois en finale, même s'il l'a pas gagné, c'est qu'il y a une raison.
Eh bien, justement, Leicester, ça fait un mois à peu près qu'ils ont changé d'entraîneur. Claudio Ranieri a été remercié, lui qui avait emmené les Foxes au titre. Et c'est son ancien adjoint, donc, qui l'a remplacé, Craig Shakespeare, qui, eh bien, a l'impression de vivre dans un rêve.
C'est vrai qu'il faut se pincer pour y croire, mais c'est pour ça qu'on fait ce métier. Tout cela nous motive, il faut garder cette mentalité de vainqueur tout le temps. On progresse individuellement et collectivement, mais quand on regarde où on vient, quand on marche dans ce stade de l'Atlético, quand on voit tous ces trophées, les vestiaires, c'est vraiment magnifique. Il faut respecter cette tradition, ça vous donne des frissons, mais moi je suis de l'autre côté aujourd'hui et je veux m'assurer qu'on profite de ces moments rares et le meilleur moment. Le moyen de vraiment savourer, c'est de faire un bon match et d'obtenir un résultat.
Alejandro, arrivé à ce stade de la compétition, peut-être que pour Leicester, c'est déjà... Habib dit qu'ils sont allés très loin, mais c'est peut-être déjà le rêve.
C'est un rêve. De toute façon, ils n'ont rien à perdre. C'est leur avantage par rapport à l'Atlético, qui, malgré lui, se retrouve dans la peau du favori, qui est Impo, qui a priori ne lui convient pas. Donc c'est, je pense, la principale difficulté de l'Atlético va être de gérer cette problématique. Après, je pense que l'Atlético a l'avantage d'avoir réglé un petit peu les affaires à la maison. Ils ont eu une saison qui a été un peu compliquée. Aujourd'hui, ils sont quasiment sécurisés la 3e place en Liga. A priori, ils sont trop loin du Real et du Barça, donc ils sont pas dans la quête d'un titre en championnat. Et leur objectif, c'est d'arriver encore une fois en finale.
Aussi très important, le débat des départs, du possible départ de Simeone, il s'est arrêté aussi. Ça donne un petit peu de calme.
Absolument. En plus, c'est un peu les adieux à ce stade Vicente Calderón, puisqu'on sait que c'est la dernière saison. Donc, finir en beauté, ce serait très important pour l'Atlético.
David, comment vous le voyez, vous, ce match? Il n'y a pas d'Allemand, hein.
Oui. C'est pas des clubs allemands. Si, si. J'allais dire une bêtise. Christian Fuchs est autrichien qui défend pour Leicester. J'avais été frappé, moi, lorsque Chelsea avait été champion d'Europe, avait gagné cette Ligue des Champions, par ce début de saison moribond que Chelsea avait fait à l'époque, pour finalement surgir du chapeau au dernier moment. Bon, je dis pas que ça va être le cas avec Leicester, ni ce soir, ni plus tard dans la compétition, mais simplement, ça me rappelle ce principe qu'on ne peut pas traverser une saison en étant linéaire à bon niveau. Donc, si Leicester a été faible au début, ça a peut-être permis
alors,
aussi.
Alors, ils ont eu 5 victoires et puis de nouveau une rechute le week-end dernier.
Bon, ben alors c'était mon seul argument.
Leicester, il a ressuscité au milieu de l'éliminatoire face au Séville, parce qu'il était rappelé
oui,
Abil aussi,
ah, oui,
parce
oui,
que Ranieri, il était dans les matchs allés, il n'était pas sur les matchs de retour. Et a priori, le Séville, plutôt... dans ces moments-là, il était en super équipe de la Ligue aussi. Sampaoli, il a fait des jeux, mais tout a contrasté. Dans ces moments, une équipe, il a descendu et l'autre, il a monté. Donc, je mets de mes filles, même si je suis espagnol, hein, que je suis toujours optimiste.
Non, mais c'est vrai que c'est bien pour Leicester. C'est une belle aventure, mais je les ai commentés pour le huitième de finale. J'ai pas vu une équipe, que ça soit à l'aller ou au retour, qui a dominé son sujet. C'est plutôt Séville qui n'a pas joué à son niveau à domicile. Ils avaient l'occasion vraiment de tuer ce match. Et le but de Vardy à Séville a tout changé. Puis après, c'est vrai que quand vous êtes à domicile avec l'opportunité d'être une petite équipe et d'aller en quart de finale de Ligue des Champions, on sait que ça peut se passer aussi ce soir.
Eh bien voilà, suspense, et nous retrouverons donc à 21h10 en temps universel pour nos auditeurs africains, parce qu'on reviendra sur les matchs de la soirée.
Pronto al controcross, si avvicina Dybala, Cuadrado vuole andare nel dribbling, ecco Dybala, si gira, prova il tiro, rete, Dybala colpisce subito, Dybala mask, Juventus Stadium impazzito, Juve in vantaggio. Wayne in mezzo, arriva anche Dybala, prova a girare subito, rete, un altro gioiello, un altro capolavoro incredibile, Dybala. Parte il cross, lungo dall'altra parte, colpo di testa, palla rete, Chiellini rete.
Ça change de goal, hein, Alejandro Valentela. Arrête, ça sonne bien aussi. Mais c'est la presse espagnole qui aujourd'hui se désespère de la prestation de ce Barcelone hier soir sur la pelouse de Turin, donc avec cette belle victoire de la Juve sur le score de 3-0. La presse espagnole titre aujourd'hui de naufrage en naufrage, encore une nuit européenne de cauchemar, anéantissement, crucifié. Et nos confrères, autant catalans que madrilènes, hein, c'est à souligner, c'est important, n'est-ce pas, Carlos, je vous vois dire oui aussi. Eh bien, ils ont cru voir passer le fantôme de Paris dans le stade des Alpes de Turin, alors que évidemment, eh bien, un autre croit qu'avertir la Juventus quand même que, enfin, le Barça, que la Juventus, ce n'est pas Paris. Et écoutons justement Luis Enrique, parce que Luis Enrique, lui aussi, il a vécu une soirée de cauchemar.
C'est lamentable, c'est un sentiment de tristesse pour un entraîneur. Je ne peux pas expliquer ce match. On aurait dit la troisième mi-temps de PSG-Barça. J'ai l'impression de revivre un cauchemar. Je ne sais pas ce que je vais faire avec les joueurs, mais ce ne sera rien de positif ou d'agréable. On va réfléchir à une autre remontada.
Une autre remontada, Alejandro.
Oui, en fait, je pense que Luis Enrique s'est référé surtout à la première mi-temps d'hier, parce qu'effectivement...
Ah oui, il dit Barcelone, une troisième mi-temps, donc c'était
Barcelone
effectivement la première.
Est très mal entré dans son match. Après, par rapport au match contre Paris, je trouve que Barcelone, quand même, a eu beaucoup plus d'occasions. Et ce manque de réussite coûte très cher, parce que probablement, au vu des occasions, Barcelone n'était pas aussi loin que ça de la Juventus. Mais les gros désastres côté barcelonais, ça a été la défense qui a été très mauvaise. Et les choix de Luis Enrique, ils sont pour quelque chose. C'est vrai que Busquets était suspendu, ça, on ne pouvait pas y remédier. Mais mettre Mathieu à la place de Jordi Alba, il y a peut-être des raisons, mais on a du mal à comprendre.
Carlos, vous êtes d'accord avec l'analyse d'Alejandro?
C'est le gros problème pour moi. On a parlé ce matin de Luis Enrique. D'accord, mais Luis Enrique, vraiment, une fois qu'on voit l'équipe, on voit Mathieu déjà directement dans l'équipe titulaire. Une fois qu'il se trompe, à 10 minutes, il fait chauffer déjà André Gomes avec tous les débats qu'il y a eu. Donc, et après, il a fait seulement un seul changement. Un seul. Il a perdu 3-0. Et je pense que le pire, c'est qu'à la fin du match, il a déclaré que c'est pas remontable. Et ça, on peut pas dire.
Il a dit que c'est presque plus compliqué.
Beaucoup plus compliqué. Il a dit quelque chose de très dur.
Le Barça a déjà fait 3 remontadas. Alors, pourquoi pas 4?
Oui, c'est la tonique générale. Je sais pas combien ils sont encaissés à Manchester ou si à Paris. Si on regarde de ce côté-là aussi, mais
Habib a un œil peut-être plus neutre. Habib, c'était une super soirée quand même de la Juve.
Ah, mais c'était exceptionnel. Moi, j'ai une déclaration d'amour pour Barzali, Chiellini et Bonucci. C'est juste exceptionnel de voir des joueurs aimer défendre comme ils le font. On parle du talent de Dybala, mais il faut aussi parler de ces joueurs-là, parce que quand vous avez 3 joueurs comme ça avec Buffon, parce que c'est juste exceptionnel, mais on en parle tellement de Buffon, mais ces 3 joueurs-là, hier, j'ai vu Chiellini tacler, aller taper dans la main de ses partenaires. Des joueurs qui sont animés par ce qu'ils font. Moi, j'ai défendu pendant 15 ans de ma vie. J'ai défendu 15 ans de ma vie pour les attaquants qui devaient briller devant, et j'aimais ça. Donc quand je vois ça, ça me donne presque de l'émotion de les voir comme ça, dans un état où le mec tacle et on a l'impression qu'il vient de marquer un but en finale de Coupe du Monde. C'est juste exceptionnel de voir cet état d'esprit, et c'est ce qui fait les grandes équipes et c'est ce qui fait les grands clubs, et c'est pour ça que la Juve est un grand club aujourd'hui. Ils ont un grand entraîneur, Allegri, on le sait depuis des années, la Juve l'a prouvé. Mais hier, c'est pas forcément une démonstration, mais c'est une démonstration de force tactique, je trouve, parce qu'ils ont pressé le Barça, et ça, c'est pas donné à tout le monde de presser le Barça, même un Barça qui est pas en grande forme. Mais je rejoins Alejandro, c'est que ce Barça était meilleur que celui face au PSG à Paris. C'est un Barça qui s'est procuré des occasions, mais la science tactique d'un joueur comme Bonucci, vous voyez Suarez, à chaque fois il a essayé d'aller au contact de Bonucci, et lui a l'intelligence de pas faire comme tout font les défenseurs qui veulent aller au combat. Il refuse le combat, donc en fait il anticipe tout ce que fait Suarez. Ça veut pas dire que Suarez s'est pas procuré des occasions, mais c'est une déclaration d'amour pour ces trois là. C'est juste exceptionnel de voir ça en tant qu'ancien footballeur. C'est vrai que le Barça est dans une période difficile. Je pense qu'il y a une fin de cycle pour certains joueurs. Ce groupe ne se reconnaît peut-être plus en Luis Enrique. Quand je vois l'attitude d'un Léo Messi, par exemple, qui pour moi était bon hier, en tout cas n'a pas été mauvais, n'est pas été à son meilleur niveau, je me dis qu'il y a quelque chose qui se passe de pas bon au sein du Barça. J'ai pas vu sur son visage une attitude de quelqu'un qui était content de vivre ce qu'il vit actuellement.
Ouais, plus les colères aussi, enfin les gestes de colère de Neymar. C'est vrai que c'était compliqué, David.
Je me souviens d'une scène. Habib parlait de science tactique. Il y a quand même aussi une science technique incroyable.
Oui.
Je crois que c'est Iniesta qui s'apprête à entrer dans la surface pour le Barça, une action vraiment dangereuse. Et non seulement l'un des défenseurs que tu as cité, Habib, de la Juve, non seulement réussit son tacle, mais en plus le ballon revient dans l'autre sens, c'est-à-dire que le tacle est réussi parce que le joueur du Barça est arrêté, mais en plus, la Juve derrière peut repartir avec le ballon. Il y a vraiment
des joueurs de ballon,
presque une marge en défense.
Dybala, Pjanic, on n'en parle pas, mais Pjanic hier aussi, c'est exceptionnel.
Si, justement, on va parler de Dybala, parce que Dybala a-t-il surgi pour prendre un jour le relais de Messi? Il s'est resté modeste, mais quand on lui a posé la question, est-ce que vous avez peur d'une remontada, voici ce qu'il a dit.
Le retour, on sait ce qui s'est passé avec le PSG. Alors c'est sûr que ça va nous servir de leçon. C'est une expérience, nous allons étudier ce qui s'est passé, ce ne sera pas facile. Mais aujourd'hui, là, nous voulons profiter parce qu'on a remporté cette rencontre et puis on pensera au retour plus tard.
Est-ce que c'est le futur Messi comme on en attend des Messi tout le temps?
Non,
donc
bien sûr que non. Disons que de futur Messi, à mon avis, il n'y en a pas aujourd'hui.
Il n'y en aura jamais.
Il n'y en aura jamais.
Messi.
Mais c'est un très bon joueur, Dybala, qui a beaucoup de qualités, qui sait jouer à différents postes, qui peut jouer derrière un attaquant comme il le fait régulièrement à la Juventus, comme il peut jouer en pointe. Et il s'est marqué. On a vu la pu dureté, surtout sur son deuxième but, là, le pied gauche, la reprise immédiate qui crucifie Ter Stegen. C'est un très bon joueur, mais évidemment, c'est pas les nouveaux Messi. Moi, je les suis depuis longtemps parce qu'il jouait à Instituto de Cordoba quand il était en deuxième division, et à cette époque, on disait beaucoup de bien de lui. Palerme a eu l'intelligence d'aller le chercher. Ce sera un très bon joueur, mais ce ne sera pas Messi.
Et les Espagnols vont avoir l'intelligence de l'avoir l'année prochaine.
Habib, est-ce que la Juventus peut craindre une remontada?
Oui, bien sûr, bien sûr.
Justement, avec ces défenseurs que vous louez tout
à l'heure.
Oui,
non, mais je loue leur façon de défendre, d'aimer défendre, mais ça ne veut pas dire qu'ils peuvent pas être anéantis par le Barça. Le Barça est capable d'anéantir n'importe quelle défense, même ceux que j'ai déclarés en amour 10 minutes avant. Je crois que le Barça a montré qu'ils étaient capables de remonter 6 buts face au Paris Saint-Germain, donc il n'y a pas de raison qu'ils le fassent pas contre la Juve. S'ils marquent très très vite un but et puis deux buts, et à la mi-temps, vous menez déjà 2-0, même si je pense que la science tactique, la qualité défensive, l'unité de la Juve est beaucoup plus importante en termes d'expérience. Je pense que des joueurs comme Chiellini, comme Bonucci, comme Barzagli sont des joueurs beaucoup plus armés dans la tête que peuvent l'être par exemple un Marquinhos, un Serge Aurier ou éventuellement un Kurzawa. C'est ce que je pense. Maintenant, bien sûr que tout est possible en football. On a tellement été catastrophé par ce qui s'est passé face à Paris.
Oui.
Bien sûr que ça peut exister.
Je te réponds avec une statistique. La Juve, il a encaissé seulement 2 buts de la Ligue des Champions.
Meilleure défense voilà. De la Ligue des Champions.
Oui, mais il y avait déjà eu 240 précédents lors de la remontada. Ça n'avait pas existé. Donc tout est possible.
Il y avait eu aussi un arbitrage un peu polémique, à tel point qu'hier soir, tous les réseaux sociaux s'amusaient de dire qu'il faudrait rappeler cet arbitre pour le retour.
En lui mettant un maillot barcelonais. Non, le problème, c'est que si le Barça encaisse un but et Alejandro soulignait les faiblesses potentielles au moins du Barça en défense, ça oblige à en marquer 5. Alors là, c'est quand même encore un exploit.
Mm-hmm. Bon, mais on nous a dit que... On nous a montré, on a vu que le Barça était capable, alors pourquoi pas? Eh bien, nous le verrons. En tout cas, nous parlerons des matchs de ce soir, donc dans la deuxième émission de Radio Foot International. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir parlé des matchs du jour. Merci à David Finzel qui m'a aidé à préparer l'émission et à Nicolas Benita qui était à la réalisation. Et on vous dit tous les trois, eh bien, à tout à l'heure.